Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour. Notre émission Au fil des pages, évidemment, vous propose des livres et des livres d'académiciens. Aujourd'hui, je reçois Jean Mauduit qui a lu le livre d'un académicien qui est d'ailleurs une académicienne. Bonjour Jean Mauduit.
Bonjour Hélène. Oui, il s'agit de Jacqueline de Romilly et de son livre La grandeur de l'homme au siècle de Périclès aux éditions de Fallois. Un petit livre, mais un immense message. Et qui incite à beaucoup de réflexions, dont j'espère qu'elles seront salutaires.
La grandeur de l'homme au siècle de Périclès, c'est un titre érudit. Faut-il être érudit pour le lire ?
Le titre est érudit, le livre aussi. L'ouvrage, en tout cas, le fruit d'une érudition éblouissante. Jacqueline de Romilly tutoie littéralement Thucydide, Sophocle et d'autres, Homère, Euripide. Elle fait revivre, en fait, la quintessence de la civilisation athénienne. Une certaine conception, en effet, de la grandeur de l'homme, qui nous interpelle encore si longtemps après, 25 siècles. Je dirais même, par les temps qui courent, plus que jamais.
Et qu'est-ce qu'elle entend par grandeur de l'homme ?
Oui, c'est vrai que ce genre de formule incite à la méfiance. C'est d'abord l'ambition pour l'homme de faire avancer l'humanité, et la confiance qu'il a de ses accomplissements. La première partie du livre de Jacqueline de Romilly, en écho à ses propres travaux, mais il ne s'agit pas du tout d'une démarche nombriliste, est consacrée à l'idée de progrès dans la littérature grecque, notamment chez Sophocle, mais on ne l'attendait peut-être pas, chez Thucydide.
Grand historien,
peu accessible aux utopies puisqu'il n'a cessé de mettre en avant la connaissance objective des faits. On peut même dire que c'est le premier, chronologiquement parlant, des historiens, ceux-là justement qui ne font confiance qu'au fait. Mais ce même Thucydide nourrit une ambition qui est consubstantielle à l'idée de progrès, puisqu'il souhaite tout simplement atteindre une vérité historique qui reste valable pour les générations à venir. C'est donc une grande ambition. Imaginez, je dis ce qui a été et ce sera vrai encore dans 1000 ans. Par exemple, l'analyse critique qu'il fait des causes et du développement de la guerre du Péloponnèse. Péloponnèse, c'est cette presqu'île du sud-est de la Grèce qui, pendant 30 ans, près de 30 ans, a été le siège d'un conflit meurtrier entre Sparte et Athènes. On nous apprenait ça sur les bancs de l'école. Conflit, en fin de compte, perdu par Athènes, qui, à l'aube du IVe siècle avant Jésus-Christ, a dû renoncer à son ambition d'hégémonie sur le monde grec.
Mais en quoi cette histoire nous concerne-t-elle pour l'avenir, justement ? En quoi est-elle toujours pertinente ?
C'est
ça qu'elle démontre.
Oui, elle est toujours pertinente parce qu'au lieu d'utiliser les explications traditionnelles et réductrices, comme le recours à la responsabilité des individus, tel ou tel chef de guerre, la petite histoire des hommes qui si souvent appelée à la rescousse par les mauvais historiens, Thucydide met en évidence les faits économiques et sociaux. Notamment l'impérialisme d'Athènes, qui, insensiblement, a dégradé sa puissance en dégradant son rayonnement. Athènes était devenue insupportable aux autres États de la Ligue. Et Thucydide anticipe aussi sur des cycles que l'histoire, effectivement, verra s'accomplir. Comment grandissent, vieillissent, disparaissent les empires. Qu'il s'agisse de l'Empire romain, de l'Empire napoléonien, de l'Allemagne nazie, de l'Union soviétique, les empires se créent généralement à partir d'une utopie qui justifie plus ou moins leur création, qui est plus ou moins généreuse, plus ou moins exaltante. Mais après un certain stade, ils n'ont plus d'autre raison d'être que leur volonté de durer. Et donc, ils sont condamnés à subir la loi de tous les organismes vivants, grandir, progresser, atteindre son acmé, et dépérir et mourir.
Alors que devient l'idée de progrès dans tout cela ?
Bien précisément, elle recule, provisoirement. Athènes est tombée, en tout cas est tombée de son piédestal de grande cité rayonnante. Au cas présent, elle entraîne dans sa chute l'idéal grec d'harmonie, de beauté, de tolérance. Mais comme la vie est généreuse, jusqu'à présent, elle a toujours été infiniment généreuse, au-delà des accidents historiques, elle continue de proliférer, elle panse les plaies du monde, et le monde repart bientôt à l'assaut de ses limites. En fait, le monde ne cesse jamais de tendre à vaincre ses limites.
Alors en quoi cette idée de progrès participe-t-elle à ce que Jacqueline de Romilly appelle la grandeur de l'homme ?
Eh bien justement, en ce qu'elle amène l'homme à se surpasser. Pas forcément par des coups d'éclat, mais lentement, patiemment, ne serait-ce qu'à travers les inventions technologiques dont il se rend l'auteur au fil des siècles. Les empires s'écroulent, mais le progrès, ce progrès-là en tout cas, continue peu à peu, petit à petit, l'humanité invente la roue, etc.
Elle avance. En
elle avance.
Mais...
elle avance.
Mais on est à la limite de la philosophie, finalement. Là.
On est dans la philosophie. Jacqueline de Romilly, je lui reconnais volontiers le caractère d'une très très bonne philosophe. Cette philosophie est toute simple, qui n'en est pas moins profonde, qui s'appuie sur les choses de la vie et en plus sur la connaissance approfondie de l'histoire.
Kant avait souligné la nécessité d'une loi morale qui sous-tende toutes les actions humaines.
Oui,
le structuralisme avait peut-être battu en brèche cette idée.
Oui, le structuralisme a tendu à démontrer qu'il est vain d'établir entre les cultures une hiérarchie. Autrement dit, justement, il démontre qu'il faut en rabattre sur cette idée de progrès, qui, parenthèse d'ailleurs, a bien servi au colonialisme. On apportait le progrès aux pauvres noirs.
Hein. Oui, c'était une idée très 19e siècle.
Très 19e
siècle. Absolument.
Alors au passage, le structuralisme, pour la même raison, a démoli, pédagogiquement parlant, le concept de chronologie, en enseignant l'histoire non plus sous un angle diachronique, chronologique, mais en synchronie par grandes thématiques qui rapprochent les époques, les règnes, les régimes. Ce qui n'a pas manqué d'introduire une certaine bouillie dans les cerveaux des petits élèves et même des enseignants.
Ouais, bon,
et même des enseignants.
Je vous trouve bien indulgent. Avec une certaine bouillie. Alors revenons à Jacqueline de Romilly. Vous disiez en commençant que selon elle, la grandeur de l'homme, c'est d'abord dans son ambition de vouloir aller toujours plus loin, toujours plus haut. Et y a-t-il une autre forme de grandeur ?
Oui, et ici je suis obligé, enfin il faut résumer à grands traits, ce petit livre est d'une richesse, d'une densité, on dirait, considérable. Effectivement, il y a ce que Jacqueline de Romilly appelle le sort tragique du héros, c'est-à-dire de l'homme, tel que mis en spectacle par la mythologie et la tragédie grecque, et qui, victime d'un destin plus grand que lui, qu'il n'a pas choisi, comprenez la volonté d'un dieu hostile, se trouve conduit à sortir de son humanité pour accomplir ou perpétrer des actions lourdes de conséquences. Ces héros, qui échappent encore une fois à la condition humaine, et souvent sont de lignée ou d'ascendance divine, finissent en général par provoquer un épouvantable désastre, sans avoir conscience de ce qu'ils font ou ont fait, pour arriver là, exemple, type Édipe roi de Sophocle, où ce monarque qui a sauvé Thèbes découvre, sur le tard de sa vie, qu'il a sans le vouloir, et sans le savoir bien sûr, assassiné son père, épousé sa mère, donné la vie à des enfants qui sont ses frères et sœurs, des enfants incestueux, et héros que la fatalité
ben oui.
poursuivra jusqu'à la mort, car le mal ou le péché ou l'enlanqué, comme on voudra, se transmet d'une génération à l'autre.
Mais c'est quand même l'idée de grandeur, par quoi ? Par l'énormité du crime ?
Par son universalité, ou plutôt celle du schéma tragique que développe Sophocle. J'allais presque dire par son caractère exemplaire. Ce n'est pas tout à fait un hasard si le langage psychanalytique donne une telle importance au complexe d'Édipe, par ailleurs par un abus de langage que souligne Jacqueline de Romilly. Mais retenons que pour les héros de théâtre grec, pas seulement Édipe, mais aussi Prométhée, que Zeus punit pour avoir inventé le feu, un progrès pourtant, Agamemnon qui sacrifie sa fille comme une génisse sous le couteau du boucher, Ajax, devenu fou, tuant d'innocents troupeaux parce qu'il croit s'attaquer au chef de l'armée grecque, Héraclès, en proie à une furie meurtrière qui massacre ses propres enfants. Il faut admettre que le héros antique, qui encore une fois ne se trouve pas au même niveau que le Vulgum Pecus, là c'est la place du cœur, oui heureusement, c'est la place du cœur, c'est le cœur, le Vulgum Pecus, qui constate et qui déplore. Eh bien, ce héros possède une dimension supérieure, il est plus grand que l'homme. Il accomplit de plus grands exploits, de plus grands crimes, et il reçoit des châtiments plus terribles. C'est l'agrandissement, la macrophotographie, comme on voudra, de nos propres désirs, de nos propres fautes, de nos propres remords.
Comme si on grossissait le trait pour qu'on comprenne mieux ?
Absolument, comme ces bons hommes géants qu'on présente dans les Ducasses du côté de l'île. Ils touchent presque au ciel, et ils n'en tombent que plus brutalement. En somme, il est la quintessence de nos grandeurs et de nos abaissements. D'ailleurs, il ne perd rien de sa grandeur en tombant.
Alors vous, personnellement, Jean Mauduit, quand vous avez lu ce livre de Jacqueline de Romilly, quelle impression avez-vous éprouvée ?
Écoutez, j'ai été très touché et je dirais même bouleversé à cause de sa richesse, je l'ai dit, par l'éclairage qu'il apporte, parce qu'il représente une sorte de condensé du monde grec, auquel je suis resté très attaché de par mes études classiques, aussi parce qu'il retrouve l'écho de voix disparues qui m'étaient chères, celle de tel ou tel prof d'Hippocagne et de Cagne qui m'enseignait la langue et l'histoire grecque, je pense à Delacroix, à Dieny, à Bizos. J'ai pas retenu grand-chose de la langue, à la différence du latin, mais le modèle grec...
Mais les histoires sont restées, oui.
Oui, je l'ai au fond du cœur. Malheureusement, il s'exténue, ce modèle-là. Et l'appel que Jacqueline de Romilly lance en fin d'ouvrage est d'autant plus émouvant. « Il est temps de l'avouer, dit-elle, je suis très vieille, âgée de plus de 95 ans, et j'ai vécu au contact de ces auteurs grecs au moins 80 ans. Je dois dire, moi, à mon tour, l'espèce de force et de lumière, l'espèce de confiance et d'espérance que j'en ai toujours retirée. Et ces dernières lignes, j'ai eu du mal à écrire ce livre. Je n'y vois plus, j'entends très mal, et ma mémoire connaît des fléchissements. Mais je voulais le faire justement parce que je suis arrivé à la fin de ma vie et que ce message me paraît plus que jamais précieux et important. Je ne sais si l'on m'entendra, quelques-uns peut-être, mais du moins j'aurais essayé et c'est comme si le dernier mot que j'écrivais était pour dire merci. J'ajouterais volontiers, c'est nous, madame, qui vous remercions et qui n'aurons jamais fini de le faire.
Merci, c'est effectivement très bouleversant, donc ce livre de Jacqueline de Romilly est paru au tout début du mois de juin 2010 aux éditions Bernard de Fallois et il s'intitule « La grandeur de l'homme au siècle de Périclès ». Merci Jean Mauduit.
Merci à vous.
Merci à tous. À bientôt.